Nous voici à la fin d'une longue période qui a été intense, mais pas comme d'habitude, pas liturgiquement en tout cas, et de Pâques à aujourd'hui, eh bien Dieu a fait son chemin dans nos cœurs. C'est mystérieusement, là l'Église n'en a pas été témoin, et elle n'a pas pu, et c'est se trouve que c'est forcément mieux ainsi, puisque cela est. Il y a la Pentecôte, c'est l'angle de feu là, qui, dans un bruit immense de convocation, en fait. Tout ça, c'est des symboles divins, le feu, symbole de Dieu. Mais la voix de Dieu est pareille à des myriades d'armées qui se déplacent, à des trompettes fulgurantes, immenses. Tout ça nous parle de l'infini, nous parle de Dieu. Les témoins ne sont pas très nombreux. Il y a ceux de l'extérieur qui sentent que quelque chose se passe et qui s'attroupent. Mais les témoins privilégiés, les apôtres et la Vierge Marie. Et cette année, avec la fête de la Visitation qui tombe aujourd'hui en même temps que la Pentecôte, et bien vraiment ce rôle protecteur de Marie est vraiment renforcé, protecteur, un rôle de sagesse au sein même de l'Église, dès les commencements. Et en ce sanctuaire, eh bien, je trouve que c'est très beau, cette convergence liturgique des deux fêtes. Il y a donc un symbole divin qui est intraduisible, comme la contemplation de Dieu, notre prière à nous, elle est intraduisible. Mais c'est dans nos actes, dans nos paroles, comme à l'instar des apôtres, eh bien qu'elle devient tangible pour les autres. Et vraiment, nous sortons d'une période pénible, et on n'en est pas tout à fait sorti encore, celle du confinement, où on a eu droit à l'esprit du monde 24 heures sur 24. Et on a pu toucher du doigt, si tant est qu'on ait pu l'oublier, combien cet esprit est pesant et est éloigné de Dieu. Les commissariats, enfin leur standard pris pris par un tsunami de dénonciation, l'État lui-même, le gouvernement encourageant les gens à se dénoncer comme en Chine, etc. L'omniprésence de la pensée du virus diabolique sur toutes les ondes et à décliner sur toutes les manières, les accusations, les moralisations à ce propos, oubliant que la morale porte sur une chose bien plus essentielle, l'esprit du monde, la peur, la culture de la peur, et puis la manifestation de la peur. C'est le monde. Le monde gît vraiment dans la peur et est gouverné par la peur. Et la grande peur qui a explosé à la figure de tout le monde, c'est la peur de la mort. Or nous, croyants, eh bien nous ne sommes pas épargnés par la mort, mais nous sommes aidés par Dieu. Il nous enlève cette crainte de la mort. L'Esprit Saint, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean, vous révélera les choses à venir. Les choses à venir, alors c'est chronologique, historique peut-être, pour certains, en comprenant le sens des événements, l'Esprit Saint nous montre par avance ce qui peut arriver et ce qui risque d'arriver. Mais les choses à venir, ça regarde surtout et avant tout la vie éternelle, l'autre vie, c'est ça qui est à venir. Et lorsqu'on contemple les choses à venir, et il faut les contempler, eh bien cette peur qui agite le monde, eh bien pour nous, disparaît. Il n'y a pas de meilleur remède que de méditer les fins dernières, donc ce beau royaume qui nous est proposé, ce salut, cette main tendue par Dieu, pour être guéri de cette peur que tous les jours et à toutes les heures, pendant tout le confinement, on a eu droit à ça. Et la colère était intensifiée par la peur elle-même, etc. C'était un vrai cycle infernal. Pour le coup, infernal. Dieu n'avait rien à voir avec tout ça. voyez, comme le monde s'auto-châtie. Il se châtie lui-même, vraiment, pour s'être éloigné de Dieu, de cette bienveillante béatitude qu'on a, du cœur, qui aime Dieu, qui trouve auprès de Dieu, et bien sa source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Jésus souffle sur ses disciples et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est pas tout de suite, mais il leur annonce. Ils vont devoir attendre que Jésus retourne auprès du Père pour le recevoir. Mais déjà, la promesse est là. Et c'est comme si elle s'était déjà réalisée au moment où Jésus souffle sur eux. C'est pareil pour nous. Pour nous, tout ce que la foi nous promet, ben on ne le tient pas encore dans notre main. Mais c'est comme si ça s'était déjà réalisé. Jésus veut nous sauver, et nous serons sauvés, parce que nous désirons accueillir son salut. Et c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Au même passage, donc juste avant sa passion, durant la dernière scène, Jésus précise, l'Esprit-Saint, il a trois missions, trois effets, dirait-on. Il va confondre le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Confondre en matière de péché, c'est-à-dire, Jésus commente, il ne croit pas en moi. Donc l'Esprit-Saint, positivement, communique la foi. Et celui qui reçoit l'Esprit-Saint reçoit automatiquement la foi en Jésus. La deuxième, en termes de justice, il confond le monde en termes de justice, Jésus précise, parce que je m'en retourne auprès du Père. C'est l'autorité du Christ. Elle est immense. Souvent, on entend les incroyants nous dire « Ah, mais qui c'est le plus grand, c'est le Père, le Fils, ou même l'Esprit-Saint, qui c'est qui commande là-dedans » Il n'y a pas de commandement. Le Père transfère toute son autorité au Fils. Qui m'a vu a vu le Père. Nous avons vu Dieu par la foi, nous voyons Dieu par la foi en méditant les évangiles. C'est une grâce inimaginable. Mais pour la recevoir, il faut l'Esprit-Saint. Sinon, on ne peut pas reconnaître l'autorité du Christ. Et si on ne reconnaît pas l'autorité du Christ, eh bien on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Enfin, le jugement. La troisième œuvre de l'Esprit-Saint dans le monde et en nous-mêmes, c'est, Jésus commente, parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. Là, il va au bout des choses. Vous voyez, souvent, en ce moment, ça va mal dans le monde quand même, c'est manifeste, il y a des tensions de plus en plus grandes contre l'Église, contre Dieu à travers elle. Et on se dit, on essaye, vous voyez, c'est les théories du complot, d'identifier sous des formes historiques très précises ceux qui sont au-dessus de tout ça, qui bougent tout ça. Jésus nous enseigne depuis toujours qu'il y a certes des hommes de main du diable, mais qu'on n'arrive jamais à cerner qui est aux commandes ici-bas. Parce que personne n'est aux commandes. Tout le monde et personne à la fois. C'est le prince de ce monde qui seul est aux commandes. Alors c'est pas la peine d'essayer de remonter jusqu'à le petit groupe là qui mobilise le monde pour tuer l'Église, parce qu'on ne le trouvera jamais. Il nous suffit de savoir que c'est le prince de ce monde qui communique à ses disciples son état d'esprit, sa haine, sa colère, son orgueil, sa peur. Et nous, en recevant l'Esprit-Saint comme les apôtres, on n'est pas seulement rendu capable de rendre compte de notre foi, parce que nous sommes remplis de ferveur d'un seul coup et de force, et de désir de manifester et de publier la bonne nouvelle de la miséricorde divine. Non, nous sommes vraiment... C'est une communion que l'Esprit-Saint nous fait faire. Nous sommes un avec le Père, avec le Fils. Et tous les fruits de l'Esprit-Saint, commentés toujours par saint Jean, c'est d'abord la vérité qui rend libre. La vérité vous rendra libre. Parce que, eh bien, on échappe au péché de cette manière-là. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Il est la force même de notre foi. Et cette vérité devient source de vie, et cette vérité devient communion avec Dieu lui-même. Source de vie. Jésus disait à son auditoire dans l'Évangile, vous scrutez les évangiles, vous scrutez la parole de Dieu, vous scrutez la Bible pour découvrir la vie. Pour vous, comment dire, pour entrer en possession de la vie, pour la tenir là, presque par force. La vie, c'est Dieu. Accueillir Dieu, accueillir l'Esprit Saint, c'est accueillir la vie. À partir de ce moment-là, on est rempli par cet esprit que Isaïe lui-même nous propose comme un esprit de sagesse et d'intelligence. Et elle fait que nous n'avons pas besoin de réfléchir sur ce que nous devons dire. Connaissant Dieu, eh bien, l'Esprit Saint se sert de nous, quelles que soient les circonstances, si nous sommes vraiment en communion avec lui, eh bien, pour parler de Jésus d'une manière qui ne soit pas fausse et d'une manière qui soit attrayante, qui soit adaptée à toutes les langues, à toutes les personnes, que chaque cœur, selon son histoire, arrive à comprendre quelque chose de ce que nous disons en commentant notre foi. Alors, eh bien, soyons certes attentifs aux signes des temps, mais il faut être dans le cénacle pour être attentif aux signes des temps. Il faut être en prière avec Marie, et prête à recevoir cet Esprit Saint qui nous est promis.